Bonjour Roland Lescure.
Bonjour Frédéric Rivière.
On va parler de la loi Pacte que vous défendez en ce moment à l'Assemblée nationale. C'était d'ailleurs l'objet de votre invitation. Mais vous êtes un élu de la majorité et on peut dire que l'actualité est assez dense ce matin, à commencer bien entendu par la démission de Gérard Collomb dans des conditions totalement inédites. Une démission qu'il a littéralement imposée au président de la République. Acceptez-vous de parler de crise ouverte au sein de l'exécutif?
Non, mais on vient de parler de la crise politique en Arménie. Ça, c'est une crise. Il y a des milliers de personnes dans la rue qui demandent la démission du Parlement et un Premier ministre qui a du mal à gérer son Parlement. Ça, c'est une crise. Là, on a un ministre...
Mais parfois, les crises existent, elles sont un peu plus feutrées, mais enfin, ce sont quand même des crises.
Oui, mais là, d'abord, je ne pense pas que ce soit très feutré, parce qu'on en parle beaucoup. Et au fond, je pense qu'on en parle plus que la réalité de la situation le mérite. Mais c'est votre métier, c'est normal. On a un ministre qui souhaitait devenir candidat à la mairie. Moi, d'une certaine manière, je me satisfais que la situation soit clarifiée. Maintenant, c'est clair, il va partir, il va être remplacé, alors qu'on était un peu entre les deux depuis quelques jours, et je préfère qu'on ait une situation très claire, comme c'est le cas, je pense, aujourd'hui.
Mais en quelques semaines, on a quand même eu la démission de Nicolas Hulot, de Laura Flessel, ministre des Sports, aujourd'hui du ministre de l'Intérieur. Ça fait quand même un peu beaucoup pour Emmanuel Macron, non ?
C'est pas la meilleure rentrée qu'on pouvait se souhaiter, mais faut pas oublier que derrière ça, on est au travail. Hier, on a voté la loi alimentation, aujourd'hui, on vote la loi Élan sur le logement. On va y venir, j'imagine. Moi, je travaille avec mes collègues jour et nuit sur la loi Pacte,
qui est
une loi importante. Donc, faut pas oublier quand même que derrière les trémolos de la mer, il y a une vraie lame de fond avec beaucoup de travail qui est fait actuellement.
Mais est-ce que ce qui se passe, ça n'est pas que Gérard Collomb est en train de crever un abcès et de dire tout haut peut-être ce que beaucoup pensent tout bas, c'est-à-dire que Emmanuel Macron s'isole, s'enferme, loin de la réalité du quotidien des Français?
Moi, je vais éviter de commenter l'exégèse des propos ou des comportements de
Gérard Collomb. C'est un peu ce qu'il a dit, vous vous souvenez, il y a quelques jours.
Non, c'est ça. Et puis, il a dit ce qu'il a dit.
Il a parlé de l'hubris.
Il a rappelé que l'humilité était une qualité importante dans la vie en général. Et je pense que c'est vrai aussi en politique. Moi, j'ai vu, vous l'avez vu aussi, un déplacement du président de la République aux Antilles où finalement, il a été assez proche des gens.
Peut-être trop, d'ailleurs.
Ouais, moi, j'irai pas là. Moi, je pense qu'il a vraiment été au contact. D'une certaine manière, retrouvant un peu l'esprit de la campagne, qui nous a permis de gagner l'élection, il faut pas l'oublier. Et donc, moi, je suis assez, plutôt à l'aise avec le fait que le président est au contact, qu'il ait des contacts réels avec les Français du terrain qui souffrent pour certains.
C'est Édouard Philippe qui va assurer l'intérim. Quand on est Premier ministre, il reste un peu de temps dans l'agenda pour être ministre de l'Intérieur?
Ça, c'est une bonne question. Déjà qu'il dormait pas beaucoup, je suis pas sûr qu'il va dormir beaucoup plus. Bon, on l'a vu quand même ce matin avec l'arrestation de Redouane Faïd, hier avec l'arrestation d'un certain nombre de gens qui visiblement...
Vous le mettez au crédit d'Édouard Philippe ?
Non, ce que je veux dire, c'est que le service continue. Ouais. On voit bien qu'il y a une continuité de l'État et que la France est autant en sécurité aujourd'hui qu'elle était il y a trois jours. Il faut quand même parler de l'essentiel.
Rapidement, Manuel Valls a fait ses adieux à l'Assemblée nationale. Hier, il a reçu un hommage très appuyé du Premier ministre, Édouard Philippe, justement, et d'une très grande partie de l'Assemblée nationale. Étiez-vous associé à ces applaudissements?
Oui, bien sûr. D'abord, Manuel Valls, il ne faut pas oublier que c'était le Premier ministre au moment des attentats de 2015 et qu'il a porté la parole de la France très fort, avec des discours très émouvants. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne, surtout qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas la politique qu'il a menée, je pense qu'on ne peut pas nier que ça a été un homme d'État. Et puis par ailleurs, moi je trouve son geste assez courageux. Traverser les Pyrénées pour se présenter à la mairie de Barcelone, c'est un pari osé. Et donc moi je lui tire mon chapeau pour le courage.
Barcelone est une ville très motivante, c'est une jolie ville.
Il y a pire, effectivement.
Le projet de loi Pacte, donc plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, est en cours d'examen à l'Assemblée nationale. C'est un texte dense que vous faites vivre donc aujourd'hui dans les débats et qui est censé faciliter la vie des entreprises. On va évoquer un certain nombre des mesures les plus importantes. Mais d'abord, pourquoi ce texte arrive-t-il finalement si longtemps après les ordonnances travail, dont il est une forme de complément ?
C'est vrai qu'il complète les ordonnances travail, qui gérait plutôt ce qui se passe avant l'emploi. Ouais. Et là, on parle vraiment de ce qui se passe dans l'entreprise. C'est un texte qui a été extrêmement bien préparé. Ça fait un an qu'on y travaille. Bruno Le Maire a fait des consultations auprès des chefs d'entreprise, des parlementaires, des Français, consultation citoyenne, etc. Et je pense que c'était un texte qui avait besoin d'être mûri, parce qu'on fait des choses assez révolutionnaires. Vous dites qu'il est dense. Ce qu'on fait sur les seuils, ce qu'on fait sur la gouvernance des entreprises, ce qu'on fait sur la participation, c'est des choses importantes qui, je pense, avaient besoin d'être partagées avant d'y arriver. Et d'une certaine manière, ça montre que quand les choses sont bien préparées, les débats se passent bien, parce que les débats se passent très très bien.
Donc ce délai, c'est le délai nécessaire pour l'élaboration d'un texte bien construit.
Oui, et puis bien partagé, qui font que les gens s'attendent. Il n'y a pas beaucoup de scoops dans la loi Pacte. Il y a un certain nombre de mesures importantes qui, je pense, étaient prêtes. Et les Françaises et les Français, oui, les entrepreneurs, les syndicats, les partenaires sociaux étaient prêts à les entendre.
146 articles.
Dans oui, le texte. On est rentré avec 73 en commission, oui, on est ressorti avec 146, on verra avec combien on sort de l'hémicycle.
Et du coup, certains disent que c'est un texte fourre-tout, c'est un argument que vous réfutez, ça.
Oui, pour moi, c'est un texte complet. Effectivement, on revoit en profondeur ce que c'est qu'une entreprise française au XXIe siècle. Vous savez, le modèle économique dans lequel on est, il est à bout de souffle aujourd'hui. Depuis la chute du mur de Berlin, le capitalisme triomphant a créé énormément de richesses, a sorti 1 milliard de gens de la pauvreté dans le monde. Mais en même temps, on a tiré sur les ressources environnementales, on a introduit des inégalités de revenus qui sont insoutenables. Donc il faut changer ça. Comme disait Churchill de la démocratie, le capitalisme, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Il faut le réformer de l'intérieur. Au risque de quoi sinon, on va se faire réformer de l'extérieur, et ça, je préfère pas y penser.
Alors, au cœur de ce projet, enfin, l'une des mesures dont on parle beaucoup, c'est la question des seuils.
Oui.
C'est-à-dire le nombre de salariés à partir duquel se déclenchent certaines obligations pour l'entreprise. L'idée étant d'assouplir ces seuils. Moins de contraintes pour les entreprises, est-ce que ça ne veut pas dire moins de droits, moins de protection pour les salariés?
Non, on supprime aucun droit pour les salariés. Ce qu'on introduit, en revanche, c'est un peu plus de flexibilité pour que les entreprises puissent s'adapter et surtout prennent le temps de s'adapter. Il y avait 149 seuils en France, on va se concentrer sur 3 maintenant, 11, 50, 250.
Qui correspondront très rapidement à 11, quelle obligation?
Donc 11 salariés, essentiellement, c'est organiser un peu plus le travail autour des relations sociales. Ouais. Hein. 50, on a évidemment le comité social d'entreprise, ouais, on a le règlement intérieur, etc. Et 250, c'est aller beaucoup plus loin dans l'organisation sociale, ouais, de l'entreprise, avec des contraintes qui existent, mais qui pour moi sont pas juste des contraintes, qui sont des règles de vie normales dans une société de taille de 11, 50 et 250.
Qu'est-ce qui est prévu dans le projet de loi PACTE pour le développement des entreprises à l'étranger? Parce que certains disent que c'est un volet qui est peut-être un peu insuffisant.
En tout cas, c'est un vrai handicap pour l'économie française. Mmh. On a 60 milliards de déficit extérieur, c'est absolument insupportable, ça peut pas durer. Il y a toute une histoire autour de l'organisation de ce qu'on appelle la Team France, l'équipe de France de l'exportation. Il y a une réforme en profondeur de Business France, de sa gouvernance, de son organisation. Jusqu'à présent, on pensait que l'essentiel de l'aide des entreprises françaises à l'export devait se faire à l'étranger. On s'est rendu compte qu'en fait, pour les petites et moyennes entreprises, l'essentiel, c'est de les aider sur le terrain. Et donc, on va avoir des agents de Business France qui vont être en Creuse, en Corrèze, en Alsace, pour aider les entreprises de ces régions à s'exporter, avant de les attendre dans les pays et les amener alors que parfois elles n'y sont pas très prêtes.
146 articles, donc, je l'ai dit. D'après vous, quelle est la mesure qui va avoir l'effet le plus rapide?
Pour moi, il y a 4 piliers importants. C'est des entreprises plus libres et plus prospères, mais c'est aussi des entreprises plus responsables et qui protègent. Et pour moi, sans ces 4 piliers, on n'est pas capable d'avoir la croissance qu'il nous faut, c'est-à-dire une croissance qui profite à tous. Donc c'est vraiment un tout. On a une association des salariés à la gouvernance, ils vont être dans les conseils d'administration. On a une association des salariés aux fruits de la croissance, l'intéressement, la participation. Et on a par ailleurs des entreprises qui vont pouvoir croître de manière plus libre et plus flexible. C'est vraiment un tout et il faut le regarder comme ça. Les mesures qui directement vont avoir plus d'impact, je pense, sont celles sur les seuils et puis celles sur la participation, j'espère aussi.
Le texte prévoit la privatisation d'Aéroports de Paris. C'est un sujet controversé. Vous n'avez aucun doute sur la pertinence de cette décision dont certains disent qu'elle va représenter une perte de souveraineté?
Non, mais il faut qu'on repense au rôle de l'État au XXIe siècle. L'État, il n'est plus là pour être assis sur des actions et percevoir des dividendes. Il est là pour innover, il est là pour protéger, il est là pour réguler. Et ça, on va le faire. Innover, vous savez que l'innovation aujourd'hui, elle a lieu dans les garages, elle a lieu dans les petites entreprises, elle a lieu dans les laboratoires de recherche. Elle a plus lieu, ni au ministère de la Défense comme au temps de la guerre froide, ou ni dans le 7e arrondissement quand on dessinait le Concorde dans un bureau. On est vraiment dans une logique où aujourd'hui l'État doit être le plus près de l'innovation, et pour ça, il faut des fonds. Donc moi, je préfère qu'on vende des parts dans l'aéroport de Paris, qui est visiblement juste un centre commercial avec des ailes, et qu'on finance avec ça l'innovation de demain.
Merci Roland Lescure.
Bonne
journée.
Roland Lescure, député La République En Marche, interview de Frédéric Rivière.